suite le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Si le président américain n'est pas le premier à entretenir des relations étroites avec un dirigeant israélien, l'alignement entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu est à bien des égards sans précédent. Et force est de constater que le premier ministre de l'État hébreu en a sans doute bien besoin à 2 semaines des élections législatives. Et alors que ce matin encore, Israël a essuyé un nouveau tir de roquettes.
Dans votre journal également, le procès en appel d'Abdelkader Mera, condamné à 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes criminels, s'est ouvert ce matin à Paris.
En novembre 2007, il avait été acquitté du chef de complicité des 7 assassinats perpétrés par son frère à Toulouse et Montauban.
La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, remettra ce soir sa démission avant d'être confirmée comme tête de liste du parti présidentiel pour les européennes.
Et à 2 mois du scrutin, ce départ du gouvernement donne ainsi un coup d'accélérateur à cette campagne dont les principaux protagonistes en France sont désormais connus. Enfin, nous reviendrons sur la disparition du musicien et chanteur Scott Walker, décédé à l'âge de 76 ans, qui aura inspiré toute une génération de musiciens. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
C'est un livre à la fois sociétal et géopolitique. Comment le yoga a-t-il conquis le monde? On en parlera avec son auteur, Marie Coq, qui est journaliste et qui signe donc aujourd'hui à La Découverte Yoga, une histoire monte, de Bikram aux Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête.
Merci et à tout à l'heure. Tel Aviv n'avait pas essuyé de tir de roquettes aussi dangereux depuis 2014, date de l'intervention israélienne dans l'enclave palestinienne de Gaza. Ce matin, lorsque l'armée a signalé le tir, les sirènes d'alarme ont à peine eu le temps de retentir avant qu'une roquette ne s'abatte au nord de la ville. 7 personnes ont été blessées, parmi lesquelles un nouveau-né. Les images diffusées à la télévision depuis montrent un bâtiment sérieusement endommagé. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Alors pour l'heure, aucune revendication n'a été formulée, mais déjà l'armée israélienne accuse le mouvement islamiste Hamas d'être l'auteur de ce tir de roquette à longue portée. Quant au premier ministre Benjamin Netanyahou, arrivé hier à Washington, il a promis de riposter avec force à ce qu'il a qualifié de crime odieux.
Et il a prévu d'écourter son voyage aux États-Unis. Il devrait rentrer après son entretien cet après-midi avec Donald Trump. Il est non seulement Premier ministre, mais aussi ministre de la Défense et surtout l'architecte en Israël d'une politique de statu quo vis-à-vis de Gaza qui n'a pas permis de résorber les tensions. En substance, avec l'ONU et le Qatar, Israël participe à une politique de soutien humanitaire à Gaza. C'est une première étape dans un processus attendu de négociation, mais les choses sont figées, ça ne maintient pas véritablement l'enclave. La semaine dernière, des Gazaouis ont manifesté dans les rues pour dénoncer le coût de la vie et le Hamas se trouve en difficulté. Cette situation a fait grimper la tension. L'intensité des manifestations à la frontière est remontée d'un cran. Les opérations de nuit ont été relancées. Les cerfs-volants incendiaires qui ont empoisonné l'été des Israéliens ont fait leur réapparition avec une réponse systématique et militaire côté israélien. Aujourd'hui, le Hamas semble vouloir mettre la pression sur Israël pour obtenir des avancées un peu plus significatives. La marche du retour, ces manifestations donc à haut risque à la frontière, a coûté la vie à presque 200 personnes. Des milliers de jeunes Gazaouis ont été mutilés. Vendredi, on en sera à la date anniversaire à 1 an et le gain pour la population est essentiellement humanitaire, autant dire quasiment nul. Gaza est redevenu un feu couvant. Il y a 10 jours, 2 roquettes ont été tirées en direction de Tel Aviv. Personne ne semble vouloir de guerre pour l'instant, mais la situation est volatile. Israël est dans la dernière ligne droite de la campagne électorale et le Premier ministre est lui aussi dans une situation délicate. Ce matin, l'armée israélienne a annoncé des renforts vers Gaza et le rappel de réservistes.
Merci Étienne Monin en direct de Jérusalem. Alors on l'a dit, ces incidents interviennent au moment même où Benjamin Netanyahou est à Washington. Le Premier ministre a prévenu qu'il allait écourter sa visite aux États-Unis, mais non sans avoir pris le temps évidemment de rencontrer aujourd'hui en tête à tête son ami Donald Trump. Il faut dire que le chef de la Maison Blanche a prévu de lui offrir un cadeau de taille, l'officialisation par décret de la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan syrien occupé et annexé par l'État hébreu. Or même si le milliardaire républicain a assuré la main sur le cœur que cette initiative n'avait rien à voir avec le scrutin pour renouveler la Knesset, difficile de ne pas voir dans le calendrier de cette annonce un signe fort destiné à renforcer le Premier ministre israélien. Toujours aux États-Unis, c'est peu de dire que les conclusions de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, publiée ce week-end, auront offert à Donald Trump une véritable bouffée d'oxygène dans la perspective de la prochaine présidentielle où il entend briguer un second mandat. Selon la synthèse de ce rapport, aucun membre de l'équipe de campagne campagne du candidat républicain n'a collaboré avec la Russie en 2016. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Depuis hier, nombre d'élus démocrates forcément déçus par les conclusions de cette enquête s'emploient à souligner les limites de ce rapport en réclamant la publication notamment intégrale de l'enquête, mais aussi en s'efforçant de porter le combat sur la question de l'obstruction à la justice. Et pourquoi ? Parce que si le procureur a effectivement disculpé Trump et son entourage de collusion avec la Russie, en revanche, Claude, il n'a pas exonéré le président américain de l'accusation d'entrave à la justice.
Effectivement, et vous venez de le souligner, hein, Thomas, c'est bien parce que cette question reste ouverte que les démocrates exigent la publication de l'intégralité du rapport Mueller. Nancy Pelosi, qui dirige la Chambre des représentants, estime que la synthèse de ce rapport amène finalement autant de questions que de réponses, car si le rapport conclut à l'absence de preuves incriminant le président, les démocrates, eux, rappellent les cas troublants des responsables entendus dans le cadre de ces enquêtes. Jeff Sessions ou le conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, qui avait dû finir par admettre des contacts avec l'ambassadeur de Russie pendant la campagne, ou encore il rappelle les liens troubles de Paul Manafort, le conseiller de campagne de Donald Trump, avec les groupes pro-russes ukrainiens. Alors pour les démocrates, c'est effectivement un coup très dur, car la perspective d'un impeachment, d'une destitution de Donald Trump, semble durablement écartée, même si début mars, la commission judiciaire de la Chambre des représentants a été saisie d'une enquête sur des accusations d'abus de pouvoir et d'obstruction à la justice. Cette instance est précisément contrôlée par les démocrates, qui ne désespèrent pas que le président américain puisse être également poursuivi pour conflit d'intérêts et irrégularité sur le financement de sa campagne. Mais évidemment, à un an et demi de la prochaine présidentielle, ces conclusions permettent à Donald Trump d'éloigner son plus grand cauchemar, cette enquête Mueller, et surtout de pouvoir capitaliser sur cette chasse aux sorcières qu'il n'a cessé de dénoncer depuis son élection.
Merci Claude Guibal. Donald Trump, toujours lui, aura souvent annoncé la fin du califat autoproclamé par l'organisation djihadiste la plus redoutée au monde, mais en l'occurrence ce sont les forces démocratiques syriennes qui les premières ont confirmé samedi la chute du dernier territoire tenu par le groupe État islamique en Syrie, une date marquante mais qui pose encore de nombreuses questions, qu'il s'agisse de la mue possible de Daesh en organisation clandestine, du débat autour du rapatriement ou non des milliers de djihadistes et de leurs familles au sein des pays occidentaux, mais aussi sur la consolidation du régime de Bachar el-Assad soutenu par la Russie et l'Iran. Arrivé dimanche d'Italie, le président Xi Jinping, après un crochet par la principauté de Monaco, arrivera à Paris en début d'après-midi. L'occasion, comme à chaque rencontre, de signer des contrats commerciaux et autres accords de coopération. L'occasion aussi de rappeler que l'appât des capitaux chinois ne saurait faire oublier une autre réalité, celle de l'épineuse question du respect des droits de l'homme. Alors, hasard de l'actualité ou pas, dans un rapport publié ce matin, l'organisation Reporters sans frontières détaille justement les nouvelles façons de procéder de la Chine pour influencer et contrôler l'information au-delà de la Grande Muraille. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Ce rapport montre notamment comment Pékin souhaite aujourd'hui jouer un rôle majeur dans la diffusion et le contenu de l'information dans le monde.
Oui, vous savez, la Chine qui occupe le Tibet, ça ne change pas. La Chine qui persécute les Ouïghours et les minorités, ça ne change pas non plus. La Chine qui est 176e, vous avez bien entendu, sur 180 au classement de la liberté de la presse, ça ne change toujours pas. Mais ce qui évolue, en effet, c'est la menace de la censure. Pékin entend développer à sa façon et sa façon de maîtriser l'information partout dans le monde. Et pour ce faire, les Chinois utilisent tous les moyens modernes. Ils veulent à la fois maîtriser les tuyaux de communication, maîtriser Internet avec des acteurs économiques comme Huawei et sa 5G, mais aussi maîtriser l'information qui passe dans ces tuyaux. Un contrôle total, comme l'explique Christophe Deloire de Reporters sans frontières.
La Chine veut changer tout simplement l'ordre mondial des médias. Elle veut imposer son ordre. Et pour ça, elle a une stratégie. Elle entre au capital de médias partout dans le monde. Elle invite des journalistes de l'ensemble du monde à des séminaires, à des formations à Pékin. Il y a une opération qui s'appelle Tapis Rouge. Elle intimide, elle menace. Des journalistes ont été licenciés dans des médias à l'étranger, tout simplement parce que Pékin avait des participations et que les paroles de ces journalistes avaient déplu à Pékin. En fait, le rêve chinois, qui est une expression qui a été développée par le président Xi Jinping, le rêve chinois en matière d'information, c'est le contrôle.
Et pour comprendre comment fonctionne encore cette influence chinoise, il faut savoir par exemple que Pékin a créé une loi sur la cybersécurité très très restrictive et que cette loi a été adoptée par d'autres pays comme le Vietnam ou encore le Cambodge. Et puis je vous passe enfin les fake news, si chères à Donald Trump. Selon RSF, les Chinois en sont friands également.
Merci Nathanaël Charbonnier. Pour tous ceux qui en Thaïlande espéraient enfin tourner la page de 5 années de régime militaire, la déception est immense selon les résultats partiels des élections législatives organisées hier. Le parti de la junte au pouvoir sortirait en tête. Le premier ministre sortant auteur du putsch de 2014 devrait donc être en mesure de se succéder à lui-même. Pour autant, sera-t-il en mesure de gouverner s'il ne dispose pas d'une majorité suffisamment forte? Pour l'heure, on ignore encore comment ces résultats se traduiront en sièges. C'est une semaine cruciale, une de plus, qui s'ouvre pour la première ministre britannique Theresa May après le nouveau calendrier du Brexit et qui prévoit, entre autres options, un report du divorce au 12 avril. De son côté, la Commission européenne a annoncé ce matin avoir terminé ses préparatifs en cas de divorce sans accord, une perspective qui semble de plus en plus vraisemblable. Presque 7 ans jour pour jour après les attentats de Toulouse et Montauban, le procès en appel d'Abdelkader Merah s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le frère aîné de Mohamed Merah y est rejugé pour complicité d'assassinat et association de malfaiteurs terroristes criminels. Florence Sturm, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du palais de justice. Alors rappelons Florence qu'en première instance, l'ex-caïd des cités converti à un islam radical avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, mais acquitté en revanche des faits de complicité. C'est donc autour de cette question notamment que devrait s'articuler ce deuxième procès dont vous avez assisté ce matin au début de l'audience.
Oui, c'est une cour d'assises toujours composée de magistrats professionnels et non de jurés populaires qui va juger Abdelkader Merah et Feta Malki. 7 magistrats au lieu de 5 lors du premier procès avec à leur tête Xavier Simeoni, une présidente réputée pour sa rigueur, sa ténacité, connue surtout pour avoir renvoyé Jacques Chirac en correctionnel en 2009 dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris et ce contre l'avis du parquet quand elle était juge d'instruction spécialisée dans les affaires politico-financières. L'audience a débuté il y a seulement 2 heures dans un climat plus apaisé qu'à l'ouverture du premier procès où l'apparition de la mère d'Abdelkader Merah et le baiser qu'elle avait adressé à son fils avaient provoqué d'emblée de vives réactions sur les bancs de la partie civile. Elle n'est pas présente aujourd'hui mais viendra témoigner à la barre le 4 avril prochain. Abdelkader Merah et Feta Malki, eux, ont repris les mêmes places dans le box à chaque extrémité du banc. Chemise blanche, barbe noire fournie et cheveux longs attachés en catogan pour le principal accusé qui ne quitte pas la présidente des yeux, le menton posé sur sa main gauche durant toute la lecture des faits qui lui sont reprochés. Hasard du calendrier judiciaire, cela fait 7 ans, jour pour jour, qu'il est détenu dans cette affaire où il a été condamné à 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs, mais acquitté pour complicité des assassinats commis par son frère. Ce sera, vous le disiez, le principal enjeu de ce procès, à la fois pour l'accusation qui avait requis la réclusion criminelle à perpétuité et qui a fait appel au lendemain du verdict, pour les familles des victimes convaincues de la culpabilité du frère de l'assassin et nombreuses ce matin encore, visage grave sur les bancs de la partie civile. Enjeu enfin pour la défense qui avait plaidé l'acquittement, y compris pour l'association de malfaiteurs dénoncée comme une infraction fourre-tout par les avocats des deux accusés.
Merci Florence Sturm en direct du palais de justice de Paris et merci également à Lucien Lefebvre pour les moyens techniques. À 2 mois du scrutin européen, une nouvelle enquête d'opinion nous apprend que 3 Français sur 4 se déclarent intéressés par le scrutin. En revanche, il ne serait que 42% des sondés à se dire certains d'aller voter. Et puis toujours s'agissant de cette campagne européenne, à l'Elysée comme à Matignon, c'est avec une certaine appréhension qu'on envisage les toutes prochaines heures. La ministre des Affaires européennes numéro 2 au Quai d'Orsay, Nathalie Loiseau, remettra ce soir sa démission au gouvernement avant d'être confirmée comme tête de liste de La République En Marche pour le scrutin du 26 mai, ce qui nécessitera inévitablement un mini remaniement. Le nom de celui ou de celle qui la remplacera pourrait être dévoilé dès demain. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, outre l'intronisation ce soir donc de Nathalie Loiseau, tête de liste LREM pour les élections européennes, on a également appris ce matin que l'écologiste Pascal Canfin devrait être présent sur la liste de la majorité. Évidemment, la présence confirmée de l'ex-ministre Europe Écologie Les Verts ne souffre aucune ambiguïté. Stéphane, il s'agira de mordre sur l'électorat écologiste qui avait largement voté d'ailleurs Macron en 2007.
Oui, a priori, tout semble indiquer que Pascal Canfin figurerait en seconde position sur cette liste derrière Nathalie Loiseau. Pour En Marche, il représente évidemment une prise de guerre importante. Il avait été l'un des 2 ministres écologistes du début du quinquennat de François Hollande avec Cécile Duflot avant que les Verts quittent le gouvernement. Ensuite, il avait pris la direction de l'agence WWF France, la branche française de l'organisation non gouvernementale qui lutte pour la protection de l'environnement et qui est identifiée par un logo en noir et blanc représentant un panda. C'est donc en matière de crédibilité sur l'écologie un concurrent très sérieux de Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts pour ces européennes. Yannick Jadot s'en est d'ailleurs agacé ce matin, il était l'invité de la matinale d'RMC. Il a déclaré ne pas comprendre qu'un écologiste convaincu puisse rejoindre un président de la République qui a tellement renoncé sur l'écologie. Jusque-là, Yannick Jadot était un peu à En Marche ce que Nicolas Dupont-Aignan est à la liste du Rassemblement National, un concurrent qui mord sur le même espace politique et qui s'approprie une partie de son potentiel électorat. Et en la matière, la liste Europe Écologie Les Verts est sur une ligne ni droite ni gauche, est un sacré caillou dans la chaussure puisqu'elle est créditée de 8 à 9% d'intention de vote. Alors l'arrivée de Pascal Canfin sur la liste LREM est-elle de nature à changer la donne? On le verra dans les semaines à venir. D'ici là, Pascal Canfin devra expliquer pourquoi il a finalement décidé de rejoindre Emmanuel Macron, étant donné qu'il avait refusé de succéder à Nicolas Hulot à la tête du ministère de la Transition énergétique à l'automne et qu'il avait également décliné la proposition qui lui avait, semble-t-il, été faite en décembre de prendre la tête de cette liste En Marche en vue des élections européennes.
Merci Stéphane Robert. Les scènes de saccage et de pillage lors de la 18e journée d'action des Gilets jaunes à Paris avaient mis sous pression les autorités, lesquelles, pour reprendre la main, avaient promis davantage de fermeté. Finalement, samedi, environ 40 000 personnes, dont 5 000 à Paris, ont manifesté dans un calme relatif et sous très haute surveillance, même si quelques heures ont opposé protestataires et forces de l'ordre. Ces violences ont été sans commune mesure avec celles du week-end précédent sur les Champs-Élysées. Reste qu'une enquête a tout de même été ouverte par le parquet de Nice à la suite des blessures à la tête subies samedi par une militante associative âgée de 73 ans lors d'un rassemblement dans le centre-ville. L'incident s'est produit au moment où les forces de l'ordre chargées pour disperser les manifestants, en plus de la plainte déposée donc ce matin par la famille de Geneviève Leguet, Attaque annonce à son tour dans un communiqué porté plainte pour violence volontaire en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique. Et puis Ferrare ce matin, dans un entretien accordé au journal local Nice Matin, le président Emmanuel Macron a lui souhaité un prompt rétablissement à la septuagénaire, mais aussi, je cite, peut-être une forme de sagesse. Invité de la rédaction aujourd'hui, Olivia Kahn, professeur de droit pénal à l'université de Tours et spécialiste de la politique de maintien de l'ordre. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
À mes côtés pour vous interroger, Thomas Larabie. Bonjour Thomas.
Bonjour Thomas.
Première question monsieur Kahn. On l'a dit, la journée de samedi était présentée comme une journée de test pour l'exécutif face aux gilets jaunes. Elle s'est dans l'ensemble plutôt bien placée, elle va bien passer. Alors faut-il mettre cela au seul crédit du renforcement des mesures de maintien de l'ordre? Ce qui est interpellé, c'est notamment l'absence des membres de Black Bloc. Est-ce lié, selon vous, à la présence des militaires?
Alors, lié à la présence des militaires, c'est à peu près sûr que non. Est-ce que on peut mettre au crédit du gouvernement les résultats de la manifestation de ce week-end? Pour partie, peut-être. Ce qui est sûr et plus vraisemblable, c'est que, d'abord, il y a eu plus de manifestants que le week-end précédent, donc l'effet dissuasif n'est pas certain. Ensuite, l'absence de violence, en tous les cas par des activistes d'extrême gauche, comme on avait pu l'avoir la semaine précédente, n'est absolument pas liée aux mesures qui ont été prises, mais à l'espèce de jeu de chat et de la souris qui s'organise entre ces mouvements et l'exécutif. C'est-à-dire que, à la fin du grand débat qu'on avait annoncé comme ayant réglé un certain nombre de problèmes, ils sont ressortis pour montrer que la question n'était pas réglée, au moins de leur point de vue. Et puis, conduisant le gouvernement à faire des annonces ultra-sécuritaires, et là, ils ne sortent plus, ce qui veut dire, grosso modo, on déploie des effectifs pour un coût considérable qui ne servent à rien.
Justement, la semaine dernière, vous vous disiez être étonné du manque de présence policière, alors que les grosses manifestations, les gros rassemblements avaient été annoncés sur les réseaux sociaux, et vous vous étiez étonné, puisque dans le même temps, la loi Casseur passait devant le Conseil constitutionnel. Cette semaine, c'était l'inverse, il y avait des militaires à Paris, alors qu'on annonçait finalement peu de violence, peu de sortie des activistes. Alors ma question, c'est, est-ce que le ministère de l'Intérieur a toujours un temps de retard dans ce jeu du chat et de la souris, ou est-ce qu'il y a une vraie stratégie politique en fait derrière les dispositifs de maintien de l'ordre chaque samedi?
Non, je crois que c'est d'ailleurs le problème depuis l'origine du mouvement, c'est-à-dire que manifestement le ministère de l'Intérieur n'a pas de stratégie. Manifestement, le ministre de l'Intérieur n'a pas véritablement une grande idée de ce que devrait être sa politique en matière sécuritaire. Et dans ces conditions, on assiste à ce qu'on voit dans ces cas-là, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas de politique, c'est encore une politique, et en matière pénale, c'est la politique utilitariste, c'est-à-dire on élève à chaque fois un peu plus le niveau de coercition en espérant qu'à un moment, les gens vont entendre raison. Mais ce qui me permet de dire qu'effectivement on a un problème politique, c'est par exemple les réflexions du ministre de l'Intérieur au moment de l'installation du nouveau préfet de police de Paris, qui l'invite donc à se référer à Clémenceau, pour qui se souvient de ce qui s'est passé en 1906, la confrontation entre Clémenceau et la CGT, la même semaine que la semaine où on appelle l'armée au soutien du maintien de l'ordre, évoquer la personne de Clémenceau, c'est pour le moins maladroit politiquement, et en tous les cas ça témoigne d'un niveau de culture politique assez assez ennuyeux en matière de maintien de l'ordre au moins. Quant à son sous-ministre, le secrétaire d'État Nunez, ça pose une autre question, c'est-à-dire est-ce que la police doit définir elle-même son action. Depuis Karine Malberg, on sait que quand la police définit elle-même son action, ça s'appelle l'état de police et c'est jamais très bon pour la démocratie.
Ce week-end et le week-end dernier, il y a eu finalement moins de tirs de LBD40, qui sont très controversés depuis le début du mouvement. Est-ce que, sans le dire, finalement, les pouvoirs publics ont pris conscience de la dangerosité de ces choses-là, après avoir été notamment rappelé à l'ordre par Jacques Toubon, mais aussi l'ONU et le Conseil de l'Europe ces derniers jours?
Oui, je crois que l'effet de l'unanimité dans la contestation de l'utilisation de ces instruments, qui sont quand même des instruments extrêmement dangereux et qui avaient été utilisés dans des proportions tout à fait invraisemblables, a certainement joué. L'autre point qu'il faut évidemment évoquer, c'est que les policiers ne tirent quand même pas des balles de LBD totalement sans raison. Et donc à partir du moment où vous n'avez pas d'incident, à partir du moment où vous n'avez pas de zone de véritable confrontation, inévitablement on utilise moins ce type d'armes.
Thomas en parlait tout à l'heure, il y a donc eu une blessée, une militante de 73 ans à Nice, blessée par une charge policière. Donc Emmanuel Macron lui a souhaité un bon rétablissement, de la sagesse, et il a aussi ajouté, quand on est fragile, on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Est-ce qu'il y a une vraie restriction au droit de manifester dans l'esprit du président, en tout cas, quand il dit cette phrase?
En tous les cas, je suis pas certain que ce soit très habile politiquement quand on a un mouvement qui a largement commencé sur des mouvements de retraités se plaignant de leur baisse du pouvoir d'achat, de l'augmentation de la CGT, de la CSG, pardon, excusez-moi, et de ce genre de circonstances, de venir expliquer à une personne qu'elle est un peu trop vieille et trop fragile pour manifester.
Merci Olivier Kahn, professeur, je le rappelle, de droit pénal à l'Université de Tours, d'avoir été en direct avec nous, et merci également à Thomas Larabie. On a appris ce matin, c'est un génie du rock qui s'en est allé, le chanteur Scott Walker, lequel pendant un demi-siècle aura enrichi les vies de milliers de personnes, résume aujourd'hui le label du chanteur sur son site internet. Cécile de Kervas-Doué, bonjour.
Bonjour.
Scott Walker, décédé à l'âge de 76 ans, est peu connu en réalité du grand public, et pourtant il aura inspiré, Cécile, tous les plus grands, de David Bowie à Alain Bachung, en passant par Jarvis Cocker ou bien encore Thom Yorke.
Qui connaît quoi que ce soit sur Scott Walker, interrogé David Bowie dans un documentaire qu'il avait lui-même produit sur le musicien qui l'a tant inspiré. Dans ce documentaire sorti en 2006, des poids lourds de la pop anglaise se réclamaient pourtant aussi du musicien américain installé à Londres depuis la fin des années 60. Il y avait Damon Albarn du groupe Blur, Jarvis Cocker de Pulp ou Thom Yorke, le chanteur de Radiohead, qui a été l'un des premiers à rendre hommage ce matin sur Twitter à Scott Walker, qu'il a salué comme le musicien qui lui a appris à placer sa voix et ses mots en musique, explique-t-il. Pourquoi Scott Walker n'était-il pas plus célèbre? Sans doute parce qu'il avait été très célèbre dans les années 60 et que depuis il avait choisi de mener une existence très discrète. De son vrai nom Noah Scott Angel, il était né dans l'Ohio et avait grandi en Californie au milieu des années 60. Son duo appelé les frères Walker avait fait hurler une foule de fans, plus nombreuse la foule à un moment donné que celle des Beatles. Et oui, mais lassé de ses chansons trop formatées, Scott Walker, alors idole des jeunes, s'était lancé en solo dans les années 70 avec des albums mettant en avant sa voix de crooner qui allait faire de lui une icône culturelle. But in the port of Amsterdam, there's a sailor's born. En 1981, Scott Walker popularise certaines chansons de Jacques Brel pour un public anglo-saxon. Et très vite, il se tourne vers une musique de plus en plus expérimentale et innovante, qu'il met évidemment beaucoup plus de temps à créer et à produire. Son album Tilt en 1995 ou The Drift en 2006 en sont des symboles, notamment parce que ce qui les inspire, que ce soit la maîtresse de Mussolini ou le massacre de Srebrenica ou encore les attentats du 11 septembre, sont très présents dans sa composition musicale, de même que le troisième opus de sa trilogie, Beach Botch, sorti en 2012 et inspiré d'un peintre néerlandais du 15e siècle, mais toujours en voulant faire entendre une résonance entre l'histoire et le climat de notre temps. Ballooning down the street, 1,000 kilos simple for the stone sand, tips his sky piece, come to weigh me up. But I'm told, got a bucket, ground drippers spreading the trilling.
Et donc c'est sur ce titre épisodique de Scott Walker que nous terminerons ce journal avec un mot rapide de météo. Ciel variable au nord, beaucoup plus lumineux au sud. Quant aux températures, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 10 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.